France Musique.
There are moments in Mr. Gould's performance that emerge with astonishing freshness and conviction.
Derogatory comment. It seemed to be a very hedonistic way of life.
I'm conducting it because Mr. Gould is so valid and serious an artist. But I must take seriously anything he conceives in good faith.
Toute cette semaine sur France Musique, une série de 5 émissions consacrées à l'un des plus singuliers artistes du siècle dernier, le pianiste canadien Glenn Gould. Ce matin, premier volet de cette série, nous allons partir à la rencontre du jeune Glenn, qui n'est pas à l'aise avec ses petits camarades, mais apprécie bien davantage ses animaux de compagnie, dont son chien Nick et son piano. A tout de suite. Septembre 1932 à Toronto. On est alors en plein milieu de la Grande Dépression et très tôt le petit Glenn va manifester des signes qui vont le distinguer des autres enfants de son âge. Déjà, il est extrêmement sensible au toucher, il est aussi très réactif aux couleurs, il n'aime pas du tout les couleurs qui pètent et n'hésite pas à dire à tout le monde qu'il ne peut pas réfléchir correctement dans une pièce peinte avec des couleurs vives. L'un de ses premiers mauvais souvenirs, c'est quand ses parents l'emmènent voir le dessin animé de Disney, Fantasia. Il en sort très mal à cause de toutes ces formes colorées qui gigotent. Le film lui donne la migraine et en a la nausée. Est-ce que ce rejet précoce de la couleur ne cacherait pas une préférence pour Louis, une affinité pour le son? Car par-dessus tout, Glenn montre déjà une forte sensibilité pour la musique. On lui découvre l'oreille absolue à 3 ans, il prend plaisir à pianoter, compose, transpose et se met même à improviser sur le piano familial. Côté famille, c'est sa mère, Florence Grieg, qui va lui donner ses premières leçons de piano. Alors pour l'anecdote, cette Florence Grieg est bien parente du compositeur Edvard Grieg. Et en fait, elle va être son professeur de piano jusqu'à ses 10 ans en 1942. Et c'est alors que, en consultant pas mal de personnes autour d'eux, les parents du petit Glenn décident de l'inscrire au conservatoire, plus précisément dans la classe du pianiste Alberto Guerrero, pianiste chilien et musicien qui a la particularité d'être un authentique autodidacte. Glenn Gould se plaît avec son nouveau mentor. Il fait des progrès rapides et je vous propose d'écouter tout de suite un document rarissime. Glenn Gould à quatre mains avec son premier, qui sera son dernier vrai professeur, Alberto Guerrero. Nous sommes en juin 1947, le jeune Glenn Gould a 14 ans.
Thank you.
Ça pétille encore dans les oreilles. Nous écoutions le tout jeune Glenn Gould de 14 ans, à quatre mains avec celui qui a été son seul professeur, le pianiste chilien Alberto Guerrero. Nous sommes alors en 1947, et de ce professeur, le petit Glenn va retenir notamment une pratique, celle de travailler la partition à la table, c'est-à-dire à des moments où on n'est pas soi-même assis devant son instrument. Et donc Glenn va complètement s'approprier cette manière de faire, au point que vers la fin de l'adolescence, il passe à peu près autant de temps à travailler les œuvres qu'il joue au piano que sans le piano, seulement en étudiant avec précision les partitions. Mais ce n'est pas la seule chose un peu originale que fait le pianiste à cet âge-là, et ce sera encore le cas longtemps après. Le petit Glenn est très proche des animaux. Il adore les animaux, il adore son chien. Il élève plusieurs animaux de compagnie auxquels il donne des noms. Il a un lapin qu'il appelle Bach, une tortue qu'il appelle Beethoven, il a une moufette qu'il appelle Chopin, il a aussi un poisson rouge qu'il va nommer Haydn, et enfin il a même une perruche qu'il va appeler Mozart. À tout ça, il faut ajouter une série de plusieurs chiens qui s'appelleront Buddy, Sir Nicholson de Garrocklead ou encore Banco. Et une autre chose intéressante, c'est de noter que le nom de Gould, qu'on a aujourd'hui retenu, n'avait rien d'évident. En réalité, le père de Glenn avait comme nom de famille Gould, mais c'est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale qu'il a préféré changer son nom de famille vers Gould, car en ces temps de conflits mondiaux, il préférait qu'on ne puisse pas penser qu'il soit juif. La famille de Glenn, en tout cas, donne une éducation très complète, musicalement parlant, mais ils en oublient, dans une certaine mesure, un pan plus élémentaire de l'éducation. Ils oublient de l'acclimater, en quelque sorte, à des choses aussi essentielles que sont la confrontation avec les autres, la foule, les opinions d'autrui, mais aussi les microbes ou les germes. Et tout ça, vous allez le voir, va se transmuer dans la suite de sa vie vers des obsessions, des phobies, beaucoup de choses qui vont le poursuivre assez longtemps. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter l'encore jeune Glenn de 15 ans maintenant. Nous sommes en 1948 et avec le concerto italien de Bach. Thank you. nous écoutions le tout jeune Glenn Gould de 15 ans, ici un enregistrement de 1948, l'Allegro du concerto italien de Jean-Sébastien Bach. On sent déjà ici les germes du style du Glenn Gould de demain, sans doute déjà ce côté imperturbable, quasi métronomique parfois, mais on peut encore entendre quelques fragilités, ça et là. On sent que la technique pianistique est en train de se solidifier considérablement sur ces années. Et ça, c'est sans doute le fruit de tout ce travail à la maison, un travail qui parfois, dans ces années-là, prend le pas sur les autres expériences, notamment à l'école. Glenn dira de l'école que c'était une expérience particulièrement désagréable. Il s'entendait misérablement, dit-il, avec ses camarades. Avec ses professeurs, ce n'était pas mieux. Il ne va pas jouer au hockey comme le font les autres élèves. Et la musique représente pour lui le moyen d'échapper aux autres. C'est en réalité un cercle vicieux, il n'a jamais l'occasion de vraiment s'habituer à la présence des autres, ce qui ne l'encourage pas à passer plus de temps à l'école. Tout au contraire, il est en permanence entouré d'une smala de vieux monsieur, de vieilles dames, souvent de la famille plus ou moins éloignée, beaucoup de fervents croyants, des protestants, également des presbytériens. Dès cette époque, il trouve dans d'autres domaines matière à développer ses interprétations, la littérature notamment. Il raffole de T.S. Eliot. Et c'est donc un Glenn Gould plus impétueux, musicalement plus mature sans doute, qui enregistre cette 30e sonate de Beethoven quelques années plus tard.
Thank you.
Un très touchant témoignage, encore introverti, je dirais presque rougissant, l'Andante molto cantabile ed espressivo de la 30e sonate en mi majeur de Beethoven, précédée des deux autres mouvements liminaires. Une époque lointaine où Glenn Gould ne chantait pas encore dans son piano et se permettait de sacrés coups d'accélérateur au gré de sa sensibilité.
Les grands interprètes, Julien Han, France Musique.
Et oui, 10h30, et vous êtes bien sûr France Musique en compagnie du jeune Glenn Gould. Aujourd'hui, premier volet d'une série de 5 émissions consacrées au pianiste canadien. Nous voyons un peu plus tôt toutes les difficultés qu'il avait à se mélanger aux autres jeunes de son âge. Pourtant, cela ne l'a pas empêché d'avoir beaucoup d'admiration pour un pianiste. 2 ans et demi son aîné, également élève chez Alberto Guerrero en la personne de Malcolm Troup. Alors aujourd'hui, Malcolm Troup est tombé dans l'oubli. On ne trouve pratiquement plus rien dans les archives ou sur Internet, mais à l'époque, il était assez connu, avait une forte tête et a beaucoup influencé le jeune Glenn, au point qu'on peut vraiment dire que Troup ressemblait déjà au Gould que l'on connaît aujourd'hui, avant que Gould lui-même, sans doute par un certain mimétisme, n'y ressemble. En l'occurrence, ce Troup avait une forte tendance à se pencher très en avant sur le clavier et à donner l'air de caresser les touches plutôt que de les jouer. Il aimait beaucoup surprendre, parfois il choquait. Et un autre indice que cette personnalité ait beaucoup compté pour lui, c'est que l'admiration qu'il éprouvait a duré assez longtemps. On note encore qu'en 1973, Glenn Gould écrivait à l'université du Manitoba pour soutenir la candidature de Troup en tant que directeur du département de musique. Admiration pour un aîné, c'est une chose, mais qu'en était-il de la vie relationnelle de Glenn Gould ? C'est vrai qu'à le voir aussi concentré sur son clavier que le montrent certaines photos et vidéos, on est sans doute assez curieux d'en savoir plus. Eh bien, un journaliste qu'il avait bien connu rapporte ces mots « Glenn Gould ne disait jamais de blague en dessous de la ceinture ou quoi que ce soit qui se rapporte à la sexualité ». Un autre témoignage, c'est celui de Flora, la mère de Glenn, à qui on a demandé en 1951 si son fils de 19 ans était intéressé par les jeunes femmes. Ce à quoi elle avait répondu « Non, il n'a pas encore eu le temps pour ça et je suis contente qu'il soit arrivé à un tel degré de sa carrière qu'il n'en ait présentement pas le temps. C'est vrai qu'à cette époque, le pianiste est bien occupé. Par exemple, à interpréter avec rien moins que la baguette de Leonard Bernstein, le premier concerto de Bach en ré mineur. Nous sommes en 1957 avec le Columbia Symphony Orchestra.
Thank you. Thank you. Thank you.
1957, le Glenn Gould de 25 ans, concentré et imperturbable en compagnie de Leonard Bernstein et du Columbia Symphony Orchestra. Nous écoutions ensemble le très dramatique concerto pour clavier en ré mineur, BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach. Et c'est ici que s'achève ce premier volet de notre série consacrée à la carrière du pianiste canadien. Une émission disponible à la réécoute et en podcast sur francemusique.fr. Demain, je vous offre un panaché de ses plus remarquables interprétations de Bach. On va aller chiner à toutes les époques de sa vie et on va s'intéresser notamment à ses deux instruments fétiches, les pianos Steinway CD-174 et CD-318. Et un grand merci à toute l'équipe qui a participé à cette émission. Davy Travailleur, Dorothée Gold, Titon Labarre et Swad Boukorsa. Une émission également disponible sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.